Une saison au théâtre, bonjour à toutes et bonjour à tous. Au théâtre, il y a un mot qu'on emploie à tout va et en toutes circonstances, c'est le mot incarné. L'acteur incarne un personnage, il incarne une langue, un état, un concept, il incarne quelque chose ou quelqu'un. L'incarnation est l'alpha et l'oméga de la représentation. Incarner, nous rappelle le Robert, c'est revêtir un être spirituel d'une forme animale ou humaine et donc d'un corps charnel. Mais c'est aussi représenter une chose abstraite sous une forme matérielle et sensible. Et c'est encore représenter en soi, en soi-même, une chose abstraite. Et c'est enfin, dernière définition, représenter un personnage dans un spectacle. Nous ouvrons aujourd'hui le chapitre Incarnation d'une saison au théâtre, encyclopédie en mouvement d'un art fait de chair et d'esprit. Nous sommes ensemble jusqu'à 16h. Bienvenue.
Someone left me. Velvet dust in my tears, cast an eyelash on my cheek for a wish, tied up some wings to the weary load of my fears. Someone was here, changed my life and vanished. Such a funny hush hush.
Bonjour Julie-Marie Parmentier.
Bonjour.
Nous sommes très heureux de vous recevoir dans une saison au théâtre, alors que vous jouez sur la scène du théâtre de Poche Montparnasse à Paris, dans le 6e. Dans ce texte de Villiers de l'Isle-Adam, La Révolte, que met en scène Charles Torgeman, aux côtés du comédien Olivier Cruveillé. Vous êtes Elisabeth, une épouse soumise, rigoureuse, sérieuse, qui choisit un soir de dire non à sa vie étouffante. Elisabeth se lève, elle laisse derrière elle un mari et une petite fille et elle part. Texte très étonnant qui rappelle la maison de poupée d'Ibsen, sauf que chez Villiers de l'Isle-Adam, cette femme qui part revient quelques heures plus tard dans le foyer conjugal. Alors vous aurez remarqué, ou pas, Julie-Marie Parmentier, que je n'ai pas dit que vous incarniez ce personnage d'Elisabeth, j'ai dit que vous jouiez, mais j'ai dit que vous étiez. Est-ce que vous diriez de l'incarnation, puisque c'est le sujet qui nous occupe aujourd'hui, qu'elle se situe entre être et jouer?
C'est une bonne question. L'incarnation, c'est vrai que c'est un thème très intéressant, surtout au théâtre, parce que... Moi, j'ai toujours ce rapport au théâtre très spirituel, très divin. Pour moi, le théâtre, c'est le théâtre des tout premiers temps, le théâtre des tout premiers hommes, quand les hommes, les femmes et les enfants se réunissaient pour fêter le printemps, pour fêter les récoltes, où ils dansaient ensemble, où ils mangeaient, où ils buvaient, où il y avait quelque chose de la vie charnelle, de la vie joyeuse, de la vie espérance, de la mort aussi, parce que si les récoltes n'étaient pas bonnes, c'était la famine. Il y avait quelque chose de l'ordre du personnage déjà, parce que on se déguisait, on se costumait, on se mettait des feuilles de vigne, des pagnes, des fleurs, et on fêtait tout ça. Et pour moi, le théâtre, c'est exactement ça, c'est la fête de la vie, quelle que soit la pièce que l'on joue, que ce soit une comédie ou une tragédie, il y a de cet ordre-là. Et effectivement, disons que je n'ai jamais l'impression d'interpréter un personnage, ni de le jouer. D'ailleurs, je me situerais plutôt dans le être total. J'ai presque envie de dire malheureusement aucune distance avec ce que je fais, ce qui est très... fatigant parfois, c'est-à-dire que je ne peux pas tout faire parce que ça me prend moi entièrement. Donc je suis obligée de me protéger, de faire attention, de choisir ce que je vais faire ou ce que je ne vais pas faire parce que je sais que il y aura toujours en moi ce côté très puissant qui va être là, qui va m'emporter, que je ne contrôlerai pas et que je ne veux pas contrôler. Donc je laisse toujours cette part de liberté pour pouvoir fêter la vie comme il se doit.
Vous diriez que l'incarnation, c'est un devenir de la personne en comédien ou du comédien en personnage, c'est-à-dire un mouvement au fond, une impulsion vers et qui signerait ce passage de l'abstrait au concret.
Pour moi, si c'est un mouvement, c'est un mouvement de l'ordre de l'espace et pas du temps, parce que pour moi, l'incarnation, c'est complètement éternel. Quand on est dans l'incarnation, il n'y a plus de temps, il n'y a plus de avant, de après, il n'y a plus de pendant. Il y a quelque chose qui n'existe pas, un peu comme cette matière noire dans l'univers dont on ne sait pas encore exactement ce qu'elle est, mais qui pourtant est la plus importante et qui est invisible. Peut-être que dans quelques dizaines d'années, on aura fait des recherches et on découvrira ce que c'est, ou en tout cas, ça ouvrira d'autres questions. Pour moi, c'est plutôt de cet ordre-là, du mouvement intergalactique. Enfin, je me rends compte que... Je relis ça au cosmos, en tout cas, de quelque chose de plus grand que nous, pauvres êtres humains.
Moi, ce que j'entends dans ce que vous dites, Julie Marais Parmentier, c'est quelque chose qui relève à la fois de l'immanence et de la transcendance.
Oui, c'est ça. C'est ça. En tout cas, c'est vrai que quand je joue, il y a les planches sous mes pieds, mais oui. Il y a surtout le ciel au-dessus, qu'il y ait un plafond ou pas. Et c'est surtout, en fait... avec le spectateur. C'est-à-dire que la différence de jeu en répétition, quand il n'y a que le metteur en scène, l'assistant et quelques membres de l'équipe dans la salle, et quand les spectateurs arrivent, ça n'est plus du tout la même pièce. C'est autre chose. Et c'est bien parce que, effectivement, si incarnation il y a, elle ne peut se faire qu'avec le spectateur, qu'avec les autres. Moi, je ne vois le théâtre que comme une communion. Et c'est pour ça que... La révolte me le permet parce que si le personnage, Elisabeth, si la pièce n'est jamais dans l'adresse directe au public, j'ai beaucoup de moments où je peux entrer en communion avec le spectateur et je me rends compte avec les années que j'ai besoin de cette chose, encore une fois, presque religieuse, de l'ordre de la foi, de la croyance, de quelque chose d'autre. Et je ne peux pas faire autrement. Parce que peut-être j'ai ce rapport au théâtre toujours de la réunion, en fait. Mm. Et c'est vrai que dans la pièce, d'ailleurs, Elisabeth... Il y a des personnages qui se prêtent plus ou moins à l'incarnation, mais Elisabeth, alors là, est un exemple, c'est vrai que oui, c'est une femme incarnée. Donc peut-être qu'il faut être incarné soi-même, enfin en tout cas essayer de l'être pour pouvoir interpréter ce personnage, parce qu'elle a une exaltation comme ça...
On va revenir à ce personnage d'Elisabeth, mais si je vous comprends bien, Julie Marie Parmentier, vous êtes au fond assez proche de cette autre définition qui est, elle, pour le coup, chrétienne de l'incarnation, qui est que c'est l'union intime en Jésus-Christ de la nature divine avec une nature humaine. Vous parlez de fusion, vous parlez de communion. Il y a un désir d'accomplissement avec la totalité, donc, des humains qui forment l'assemblée dans la salle de théâtre.
Oui, en fait, ça dépasse
la chrétienté. Et de transmutation pour accéder à un autre état ? Au fond, de toutes ces énergies ?
Oui, peut-être. En tout cas, pour se dépasser, c'est sûr. Mais moi, c'est plus spirituel que religieux, dans le sens où c'est plus une communion avec la nature, dans laquelle nous sommes, dans laquelle l'être humain est. Mais dans le fond, je pourrais jouer pour des animaux. Et je jouerais pareil, peut-être. Ou des enfants, ou des poupées, j'en sais rien. Tiens, d'ailleurs, ce serait intéressant, jouer devant des animaux. Est-ce que ce serait possible d'avoir une communion comme ça, avec des animaux ? Je me suis jamais posé la question, mais pourquoi pas, dans le fond ? Enfin, je sais que j'ai eu une relation extraordinaire avec un chat que j'ai eu pendant 15 ans et quand j'étais autre devant elle, il y avait un regard complètement différent. D'un seul coup, si je répétais quelque chose et qu'elle me regardait, son regard à elle sur moi n'était plus du tout le même. Elle ne me regardait plus pareil. Je me rappelle que quand j'ai joué dans Noé et moi, réalisé par Zabou Bretman.
Zabou Bretman, dont on entendait d'ailleurs une des chansons signée à Anna Chalon, ouverture de cette émission.
Oui, j'étais au théâtre en même temps. J'avais besoin d'avoir les cheveux longs pour finir cette pièce de théâtre. Et le film de Zabou commençait le lendemain de la dernière de la pièce de théâtre. C'était quelque chose d'assez difficile, assez rapide et en même temps très beau. Et Zabou est venu à la maison me couper les cheveux. Donc je suis passée de cheveux très très longs à des cheveux courts, en plus une coupe, une coiffure marginale, enfin dentelée, pas belle. Zabou ne voulait pas du beau. Et je me rappelle le regard de mon chat sur moi qui adorait mes cheveux. Je ne sais pas pourquoi elle adorait quand j'avais les cheveux longs. Elle se mettait dans mes cheveux comme dans un nid. Et elle m'a regardée d'un seul coup, parce que je commençais à être le personnage de Zabou, que Zabou me demandait d'être, à travers cette coupe de cheveux. Ça y est, j'y étais. Quand elle m'a coupé les cheveux, je n'étais déjà plus moi. Et donc oui, j'ai vu le regard de mon chat sur moi, comme ça, qui n'était plus le même. À ses yeux, je n'étais plus la même. Donc c'est bien qu'il doit y avoir quelque chose qu'on ne contrôle pas, qu'on ne maîtrise pas. Même au cinéma, d'ailleurs. Enfin, pour moi, le théâtre se prête plus à cette incarnation, Au cinéma, c'est plus compliqué parce que c'est beaucoup coupé et beaucoup haché. Le métier de l'acteur n'est plus le même. C'est pour ça que j'ai besoin de revenir au théâtre à la base.
Je voudrais vous proposer, puisque vous parlez de spiritualité ou de dimension spirituelle, d'écouter les propos d'un metteur en scène qui a écrit un livre intitulé « Pour un théâtre chrétien ». À la fin des années 90, il venait parler au micro de Lucien Hatoun de la dimension justement d'incarnation qu'il trouvait manquante sur les scènes de théâtre. Il s'appelle Jean-Luc Génère.
Et aujourd'hui, dans le théâtre, je souffre du fait qu'il n'y a quasiment plus de théâtre dans l'incarnation. C'est-à-dire un théâtre où tout d'un coup, dès l'écriture, des auteurs essayent de construire des personnages pour qu'ils soient globalement votre frère. C'est-à-dire qu'on puisse se dire, en voyant sur un plateau, lui c'est moi. Que les metteurs en scène mettent en scène partout et ne travaillent pas pour incarner, pour aider des comédiens à incarner des personnages. Et on voit, moi j'y vais tous les soirs, je ne vois quasiment plus, très rarement, des spectacles véritablement en incarnation. Et je pense que la cité crève du manque de ça. C'est-à-dire que je crois qu'aujourd'hui il y a une déshumanisation totale et qu'on ne pourra arriver à accepter son frère humain que si on le voit, que dans la vie on passe son temps à côté de lui, sans le regarder, il est à côté, il est en train de crever dans le ruisseau, on ne le voit même plus, alors que le théâtre vous oblige, en payant sa place, non plus à voir, comme on fait, mais à regarder, non plus à entendre, mais à écouter. Et on voit comment fonctionne un individu qui est vous-même.
Intéressante cette approche de Jean-Luc Génère, Julie-Marie.
Oui,
Parmentier.
C'est très
intéressant. Qu'est-ce que vous en pensez?
Mais déjà, ça me rappelle beaucoup le travail que j'ai la chance d'effectuer avec André Engel,
oui.
Qui m'a beaucoup, beaucoup appris, beaucoup apporté. Et André a exactement ce rapport au théâtre. Et ça a été un choc pour moi quand je l'ai découvert. J'ai commencé à travailler avec André, j'avais 22 ans. Et je ne savais pas que c'était possible d'allier à la fois une telle exigence pardon, et un théâtre populaire. Et André a cette chose en lui et il disait toujours que le spectateur ne doit pas entendre mais écouter. Il doit pas être installé au fond de son siège mais il doit être tendu. En fait, le spectateur doit en quelque sorte être acteur. Et je pense peut-être que l'incarnation ne peut se faire que si le spectateur est aussi actif. Ça ne se fait pas tout seul.
Vous ne pouvez pas le faire devant une salle vide, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure.
Bah oui, oui.
Sinon, ça n'a pas de sens.
Ça n'a pas de sens, il faut qu'il y ait quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est quelque chose qui relie, peut-être que les neurophysiciens pourraient nous en dire plus au niveau du cerveau, ou peut-être qu'on pourrait faire des recherches là-dessus scientifiques. C'est très intéressant d'ailleurs, les recherches qu'ils font au niveau du cerveau, de voir les neurones, comment ça fonctionne, ce qui s'allume, ce qui s'allume pas, ce qui est en activité ou pas. Et on a découvert beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Au niveau de la méditation, je pense à la méditation parce que c'est vrai qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, peut-être dans le théâtre, on va dire profond. Qu'est-ce que la méditation ? D'un seul coup, on est dans un autre état, on atteint quelque chose, il y a un contrôle des émotions. Je crois beaucoup aux émotions, au partage. En tout cas, moi, le théâtre, pour moi, c'est un partage d'émotions absolu.
Mais vous décriviez tout à l'heure une position de vous sur le plateau, Julie-Marie Parmentier, qui est intéressante. Vous disiez, j'ai les pieds sur le plateau, la tête vers le ciel, et le plafond n'existe pas, et en face, il y a le spectateur. Donc, il y a une verticalité qui est corollaire à l'incarnation.
Oui. En tout cas, c'est vrai que je me rends compte que je cherche beaucoup la verticalité et que même si dans certains cours de théâtre, on peut m'avoir dit ou dire il faut être relié au sol absolument, alors peut-être il faut apprendre d'abord à être relié au sol pour ensuite pouvoir être relié au ciel. Mais moi, je me rends compte que je fonctionne beaucoup plus sur le ciel. Oui, j'adore, si je pouvais être en lévitation, peut-être que c'est ça que j'essaie d'atteindre, la lévitation absolue.
France Culture.
Une saison au théâtre.
Joël Gaillot.
Je voudrais qu'on continue à affiner ce qui se cache derrière ce mot d'incarnation dans cette émission, en circulant de parole en parole. Et je vous propose d'écouter ce que dit un psychanalyste de l'incarnation. Lui-même se fait le relais d'une autre psychanalyste. C'est Gérard Guillerot qui, en 1999, venait expliquer la pensée de Françoise Dolto sur le sujet de l'incarnation.
La thématique même de l'incarnation, même si dans le champ de la religion chrétienne, on sait que ça prend une dimension proprement divine, n'est-ce pas ? Mais je crois que, d'un sens, on pourrait dire que cette notion d'image du corps telle qu'elle l'a forgée est une façon laïque aussi de reprendre la dimension même de ce que c'est que l'incarnation, c'est-à-dire pour le reformuler dans les termes, comment un sujet prend corps, en dehors de toute bondieuserie. Et peut-être que, paradoxalement, ça serait ça l'un des aspects majeurs de Dolto. Je dirais, on a joué tout à l'heure sur « au commencement était le verbe, au commencement était le corps », peut-être qu'on pourrait dire que chez Françoise Dolto, c'est « au commencement était la parole ».
Alors, au commencement était la parole chez Françoise Dolto, au commencement est aussi la parole chez l'acteur qui est peut-être aussi un partenaire et lui aussi un allié dans cette quête de l'incarnation. Voilà qui va nous ramener à Elisabeth, ce personnage de la révolte que vous interprétez au Poche Montparnasse. Mais je me demandais, en écoutant ce que raconte Gérard Guillereau, si pour vous, le texte de théâtre ne devient pas la parole, c'est-à-dire la langue. Et qu'à ce moment-là, à partir du moment où vous vous appropriez le texte, donc, où vous forgez une parole, ça vous mène aussi vers l'incarnation, Julie Marie Parmentier.
Oui, complètement. Je crois qu'effectivement, le texte est le chemin, peut-être même le mouvement dont vous parliez tout à l'heure. Oui, oui, le texte est la base, le texte pour moi est tout, et pourtant il doit être absolument transcendé, ce texte. Il ne doit plus exister. Il doit être annihilé presque pour parvenir à quelque chose d'autre, quelque chose de plus grand, le texte. Et c'est pour ça qu'il doit être sublime et... étrangement, il doit être sublime pour pouvoir essayer d'atteindre encore quelque chose de plus grand. Mais ça, ça ne se fait que si le texte est déjà un socle énorme. On ne peut pas, sinon, si le texte est plein de failles et plein de trous, on ne pourra jamais, on sera en constant déséquilibre. Mais c'est aussi intéressant, la parole, le texte. Oui, et pourtant, il existe du théâtre muet qui permet aussi d'incarner. Peut-être que le texte est juste un moyen aux émotions, en tout cas. C'est-à-dire, par exemple, on va parler un peu de cinéma, mais le cinéma de Charlie Chaplin, muet, pourtant il y a un cinéma totalement incarné. Donc, où est la place du texte ? Est-ce que le but n'est pas de dépasser totalement ce texte ? C'est-à-dire, en tout cas, peut-être que le but est que ce texte devienne un chant. Quelque chose de chanté, et donc ça n'est plus du tout la même parole, ça n'est plus du tout parce qu'un chant résonne autrement au niveau des émotions du spectateur. Je me pose toujours beaucoup la question de la langue. Moi j'ai une passion pour la langue, pour les mots, que ce soit la langue française, la langue étrangère, pour toutes les langues en général, même les langues animales, parce qu'elles permettent le véhicule, enfin la communication, et pourtant ne peut-on pas dire plus de choses par un simple regard, qui lui ne triche pas ? Qui ne triche absolument pas. Il y a tellement de moyens de dire merci à quelqu'un. On peut dire merci et que ce soit un arrêt de mort.
Il y a tellement de moyens aussi d'intimer le silence à l'autre par le regard, parce que parlons-en du regard. Votre regard à vous, Julie-Marie Parmentier, dans ce rôle d'Elisabeth, sur cette toute petite scène du théâtre de Poche Montparnasse, où vous jouez aux côtés d'Olivier Cruveillet, qui interprète ce mari que vous ne, finalement, supportez plus. Qui vous a déçu ?
Que j'aurais voulu aimer complètement, absolument, inconditionnellement et qu'il ne me l'a pas permis.
Voilà. Mais votre regard à vous sur lui, quand il se pose sur lui, il est terrifiant de dureté.
Ouais, je pense que c'est plutôt le regard qu'Elisabeth pose sur elle, au final.
C'est difficile d'incarner, justement, une héroïne qui rêve elle-même de s'incarner en autre chose et qui n'y parviendra pas.
Alors pour moi, c'est une des choses les plus faciles qui soit, je ne sais pas pourquoi, mais ça me... Non, j'ai pas de... Enfin, c'est certainement présomptueux de dire ça, mais je n'ai pas de difficulté ou de... Mais ça vient certainement aussi de l'énergie. Enfin, il n'y a pas que la pièce, il y a aussi l'énergie dans laquelle cette pièce a été mise en scène, a été amenée au Théâtre de Poche par Philippe Tesson qui m'a appelé un jour. Tout ça compte beaucoup. Là, cette pièce, ça s'est fait tellement vite, tellement rapidement, l'énergie était tellement joyeuse. Philippe Tesson m'a dit « je veux monter ça avant de mourir ». Il y avait quelque chose. Voilà, il y avait quelque chose de l'ordre de la mort, de l'ordre de l'urgence. Et il a dû me passer ça dans mon sang. Et donc ça revient au regard d'Elisabeth, oui, alors quel regard j'ai, ça je peux absolument pas m'en rendre compte quand je joue. Mais en tout cas, Olivier est un partenaire absolument formidable parce qu'il m'écoute. Ça paraît simple, mais c'est très compliqué. Il m'écoute vraiment. Et alors je n'ai plus qu'à, puisqu'il m'écoute, c'est déjà très simple. Il m'a fabriqué le chemin sous les pieds, Olivier. Je n'ai plus qu'à le suivre. Et Charles Torgemann, le metteur en scène aussi, avec son regard si bienveillant. Et même s'il n'est pas là, il est là. Il y a aussi quelque chose de l'ordre de l'absence-présence dans le théâtre qui est aussi intéressante, mais qui revient aussi dans l'incarnation. Parce que dans le fond, moi quand je joue, je cherche à être absente de moi-même, complètement. Et pourtant, il faut bien que je sois moi-même, mais dans le fond, je recherche l'absence absolue, le vide.
Pour atteindre.
Bah oui, pour atteindre quoi, je ne sais pas, mais pour atteindre...
Vous l'avez atteint déjà ?
Oh non, je ne sais quoi, j'espère ne jamais l'atteindre.
Vous courez ?
On peut monter des paliers, disons, mais pour moi, l'atteinte ultime, c'est la mort. Le jour où je l'atteindrai, ce sera dans la mort, enfin, je pense. Je me dis ça.
On va écouter une dernière archive dans cette émission, Julie-Marie Parmentier. C'est la comédienne Dominique Blanc, qui vous ressemble par certains endroits, je trouve.
Et j'aime beaucoup Dominique Blanc.
Qui parle de l'exigence du travail de l'acteur. Elle évoque justement un spectacle dans lequel elle jouait, Les Liaisons dangereuses.
J'ai l'impression de m'affranchir et de m'enivrer, si vous voulez, de cette liberté des mots. Et qu'au fond, les personnages m'aident à me défaire de tout ce qui peut m'aliéner dans la vie, de tous les jours. Alors, avec les années, je pense que ma nature est de plus en plus inquiète. Plus les années passent, plus l'inquiétude grandit, et plus l'exigence est grande aussi. C'est un désir de perfection, le mot est un peu embarrassant, mais c'est ça, au fond. Finalement, grandir, c'est devenir de plus en plus exigeant avec soi-même. Et c'est aussi dû aux personnes avec lesquelles j'ai travaillé, évidemment, hein. Comment ne pas évoquer Patrice Chéreau, qui n'est plus là. Mais je pense que l'exigence, elle est de plus en plus grande. Et au fond, j'ai le sentiment que je mets la barre de plus en plus haut, tout simplement intérieurement, si vous voulez. C'est quelque chose de presque d'automatique.
Je crois qu'on reste avec Dominique Blanc dans le sujet de l'incarnation, parce qu'il y a l'incarnation du personnage vers laquelle on tend, et puis il y a ce qu'on renvoie à soi-même en tant que comédien ou comédienne. Comme incarnation, et Dominique Blanc incarne un chemin de théâtre, comme vous-même vous incarnez des choix de théâtre, Julie-Marie Parmentier. Et vous êtes vous aussi très vigilante sur la question du choix, vous en avez parlé tout à l'heure, parce que l'exigence, elle est aussi placée de plus en plus haut à mesure que les années passent.
Oui, très certainement, parce que j'ai une image de mon métier très idéal.
C'est un absolu pour vous, le plateau
théâtre.
C'est
un absolu, oui.
C'est le lieu de l'absolu.
C'est-à-dire que j'ai toujours dit que je préférerais garder des moutons à la montagne plutôt que, que faire tout et n'importe quoi par respect. Par respect pour le théâtre, par respect pour les gens qui payent leur place et qui viennent. J'ai un profond respect du spectateur. J'aimerais tellement lui faire oublier ses soucis quotidiens, pouvoir lui procurer un peu de rêve, un peu d'émotion pendant les quelques minutes qu'on va partager ensemble. Oui, je mets cette barre haute, mais moi, c'est plus un chemin vers l'enfance. Cette recherche de l'enfance, de l'incarnation. Dans le fond, quand les enfants jouent et qu'ils jouent être le voleur et le gendarme, il y a une incarnation absolument totale. Ils jouent et ils ne jouent pas. Et je recherche toujours cette chose de l'enfance où tout est absolu, où l'angoisse est absolue. Un enfant angoissé, est-ce qu'on peut être plus angoissé qu'un enfant angoissé ? Je ne crois pas. L'angoisse est absolue parce qu'elle n'a pas de mots. Elle prend toute la place, c'est une angoisse animale. Et je recherche ça toujours. Je recherche le théâtre de mon enfance, où tout était possible, où tout était libre, où tout était dans l'apprentissage. Alors en même temps, ce qui est beau maintenant aujourd'hui, c'est qu'il y a certaines choses que j'ai apprises et donc je n'ai plus ce fardeau sur les épaules. Par exemple, comme je viens du Nord, j'avais l'accent du Nord très prononcé, je n'ai plus mon accent à perdre. Mon professeur me disait « tiens-toi droite », maintenant je me tiens extrêmement droite. Je n'ai plus, enfin, il y a des choses qui sont plus faciles, on va dire. En tout cas, je suis toujours vigilante au plaisir, à l'amusement, à la liberté, à la souplesse. À la souplesse absolue, la souplesse du chat, la souplesse de l'enfant. La souplesse de l'enfant qui passe de meuble en meuble, qui saute du lit sur sa commode. Enfin, voilà, je recherche ça quand je joue au théâtre.
Mais quelle conscience avez-vous de votre corps, justement, sur la scène du théâtre ? Je suis très troublée parce qu'il y a une affiche pour La Révolte où vous êtes buste nu avec Olivier Cruveilhier dans votre dos.
Oui.
Les épaules dénudées.
Oui.
Or, quand on vous voit en scène, vous êtes dans une robe hyper stricte,
oui,
extrêmement
vrai.
Sévère, une robe de gouvernante, enfin une robe très contraignante, oui. Qui vous tient le corps et qui dit l'enfermement d'ailleurs, oui. Dans lequel vous êtes. Quelle conscience vous avez de votre corps et de quelle manière, justement, il participe à cette incarnation ?
Je n'ai aucune conscience de mon corps.
Non. Vous pourriez vous blesser en scène et ne pas le sentir ?
Ah mon Dieu, ça m'est arrivé. Alors non, je me suis blessée et je l'ai senti. C'est là que la conscience revient. Ça m'arrivait de me tordre la cheville dans une mise en scène de Catherine Yégel, l'avare, où on avait des escaliers à descendre. Et je me suis tordu la cheville. Donc là, la conscience du corps, effectivement, revient. Mais bon, il faut bien continuer pourtant de jouer. Cette angoisse terrible de me dire, mon Dieu, est-ce que je vais pouvoir faire le prochain pas ? Mais je n'ai pas de conscience de mon... Ah, comment ? pourtant je dois bien avoir conscience de mon corps, je marche et tout. Enfin, il y a peut-être de la recherche aussi de la transe, où le corps est là. Et... Mais par exemple, des fois on me dit « Ah, tu as joué ça, tu as fait ça », et je ne me souviens pas. Je dis « Ah bon, j'ai joué comme ça ce soir, ah bon, j'ai fait ça ce soir ».
Il y aurait un état de somnambulisme, au fond?
J'étais somnambule quand j'étais petite, peut-être. Bon, je ne dis pas que je suis complètement en transe, ça c'est effarant. La comédienne en transe hystérique quand elle joue. Non, c'est pas vrai, il y a un grand contrôle et une grande rigueur. Mais justement, j'essaye de travailler sur la liberté dans cette rigueur, de ne pas aussi être trop rigoureuse, de m'octroyer des plages de liberté où je vais chercher autre chose. Où... Je peux avoir conscience de mon corps à certains moments où je me rappelle dans... Les femmes savantes mises en scène par Catherine Yégel, Catherine me disait « Tu joues beaucoup avec tes mains, attention à ce moment-là, ne tends pas tes mains comme ça. » Donc par exemple, je peux en jouant me dire « Ah, Catherine Yégel m'aurait dit « Rentre tes mains !» Donc je peux avoir cette conscience-là à ce moment-là. Mais c'est pas pour ça que ça va prendre le pas sur le reste. Je peux l'avoir une seconde.
Je suis étonnée des interdits que vous nous racontez avoir donc réglés. J'ai perdu mon accent,
oui.
Je me tiens droite, oui. Je ne sors pas mes mains parce que je me souviens de la phrase de Catherine Yégel. Je suis étonnée de cette façon que vous avez eu d'assimiler les interdits, Julie-Marie Parmentier, parce que je ne vois pas du tout chez vous quelqu'un qui s'interdit quoi que ce soit.
Et
je vois même quelqu'un qui, s'il faut dire non, va dire non. D'ailleurs, vous l'avez fait à plusieurs reprises.
Oui, c'est vrai, je dis non beaucoup, mais je m'interdis beaucoup de choses, trop certainement. Je suis complètement différente dans la vie et... C'est comme s'il y avait une séparation chez moi entre la Julie-Marie dans la vie et la Julie-Marie comédienne. Je ne suis pas du tout la même. Je vais me permettre des choses en tant que comédienne que jamais je ne me permets dans la vie. Je vais me permettre de dire non en tant que comédienne et dans la vie, je ne saurais pas dire non. C'est très étonnant. Il y a vraiment une séparation chez moi. Quelque chose de l'ordre du double.
Avec lequel vous cohabitez?
Ah, je suis obligée. Oui, en même temps, je suis Gémeaux, ça vient peut-être de là. On m'a toujours dit, t'as une double personnalité, t'es Gémeaux. Je sais pas, peut-être aussi c'est du fait que je sois comédienne. Ah, il y a toujours le double hein, dans la comédienne, c'est sûr. Il y a toujours l'autre, en tout cas, que le comédien ne se lasse pas d'exploiter cette liberté. Mais c'est vrai que la contrainte fait entièrement partie de notre métier. Nous ne sommes que contraintes. Enfin, on joue sur une scène de théâtre, alors on peut jouer dehors et faire un rond à la craie. Mais il y a déjà des planches, il y a des partenaires ou pas. Enfin, en tout cas, il y a tout un nombre de contraintes. Il y a des costumes, il y a des lumières, il y a des spectateurs ou pas. Il y a un metteur en scène, il y a un regard, il y a un texte. Ou pas. On peut enlever des contraintes, comme un puzzle, comme un domino, on peut les choisir. Mais il y aura toujours des contraintes, il y a une heure de représentation. Il y a quelque chose qui se passe, et c'est dans cette contrainte-là qu'on ne peut trouver le plaisir. Je ne suis pas sûre que ce soit possible de trouver le plaisir sans aucune contrainte, mais même à l'époque où le théâtre n'en était pas, où le théâtre n'était que fête de la nature, la contrainte c'était quoi? Ben, c'était la nature, c'était elle qu'on fêtait. Dans le sens, moi, quand je joue, je cherche toujours à fêter cette nature, et c'est pour ça que je m'interdis des choses pour la fêter le mieux possible. Il y a des règles, des codes dans une société et je les ramène sur la scène de théâtre pour essayer de les enlever.
Vous aimez, je crois, beaucoup Mozart.
Oui, j'adore Mozart, c'est vrai.
On se quitte donc avec Mozart. En vous remerciant vivement d'être passé nous voir au micro d'une saison au théâtre et en rappelant que La Révolte, spectacle que vous jouez aux côtés de Olivier Cruveilhier dans la mise en scène de Charles Torgeman, est visible au théâtre de Poche Montparnasse à Paris jusqu'à la mi-juin. Par ailleurs, La Révolte de Villiers de l'Isle-Adam, le texte vient d'être réédité.
Oui, réédité, ouais.
Aux éditions L'Avant-Scène Théâtre avec un dossier avant, dossier après, tout ça est très bien fait. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Vous pouvez, et même vous devriez, podcaster cette émission à la page Une saison au théâtre sur le site de France Culture. Inès Duperron, Audrey Guélil, Vanessa Nadjar, Joël Gaillot vous saluent. Bientôt 16h, restez à l'écoute, c'est le moment de retrouver Aurélie Luneau et son magazine de cause à effet. Bon dimanche à vous.